Bonjour Patrice Wallet, consultant en développement commercial.
Bonjour, c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise.
Bonjour, sur RLP Business numéro 37 avec Patrice et Stéphane. Stéphane et Patrice, Patrice qui n'a pas éteint son téléphone. Bonjour Patrice, tu vas bien ?
Très bien.
Ça va, tu es sollicité, je vois, en ce début de printemps, là. Hein, bon, tu as passé une bonne semaine ?
Oui, excellent. Attendez, je me bats avec mon téléphone.
Oh là là, le vilain téléphone.
Dépendant du téléphone.
Il y a addiction et écran. Attention, j'ai fait une émission dédiée, moi, sur ça. Bon, aujourd'hui, nous allons parler imprimerie et édition. Nous recevons Monsieur Éric Pédeguet. Monsieur Éric Pédeguet, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien, ça va ?
Mon téléphone est arrêté.
Ah, c'est bien. Monsieur est un bon élève.
Quelqu'un de bien. Monsieur
Pédeguet, ouais, des nouvelles imprimeries modernes. Le dernier résistant imprimeur de Périgueux. Mais nous en parlons tout de suite après la chronique de la semaine. Ne bougez pas, c'est juste après ça.
Les actualités.
Alors aujourd'hui 14 février, je donne la date, jour de la Saint-Valentin. Bonne fête à tous les célibataires. Bah oui, c'est vrai, quoi, on ne pense jamais à eux. Pour les autres, profitez-en bien. La chocolaterie La Faille sera avec nous la semaine prochaine. On les attend avec impatience. Ah oui, parce que eux, quand ils viennent, généralement, c'est les mains pleines. Bon, alors, il y a des semaines passionnantes entre la suppression de l'article 4 de la loi sur les dérives sectaires, qui menaçait de nous faire sombrer dans le pire état de censure qui soit, et les rayons de supermarché qui se sont re-remplis. Il y a plein de raisons de se réjouir, mais pas que. Petit coup de Valda cette semaine sur les inspecteurs des travaux finis et donneurs de leçons. Il y en a partout. Ce sont généralement pas eux qui produisent, qui travaillent le plus. C'est un peu comme quelqu'un qui parlerait beaucoup, promettrait beaucoup, ne produirait rien, ne ferait rien, ne partagerait aucune information, mais débarquerait comme une fleur pour dire aux autres qu'ils sont tous complètement nuls et qu'il faudrait tout faire autrement pendant que les autres les attendent depuis des semaines en se plaignant qu'on va pas assez vite. Voilà. Le travail de groupe, quel gageur, pan, c'est fait. Merveilleux exemple sur une chaîne d'info hier soir, qui nous montre un hôpital paralysé par une cyberattaque et des experts sortis de nulle part qui nous expliquent que le meilleur moyen de se protéger nos infrastructures par la sécurité informatique, c'est de faire appel à des produits américains, notamment Microsoft, avec argument majeur, c'est eux qui ont les plus fortes dépenses dans ce domaine, donc c'est eux qui travaillent le mieux, d'accord. Donc ceux qui bossent dans cet hôpital ne servent à rien et sont inutiles, car de toute façon, ce qu'on fait nous en France ou dans les technologies libres, ce n'est pas utile, les experts apprécieront. Alors, je vais m'interrompre ici un petit peu, là, j'ai fait deux points importants. J'ai parlé de la loi 4 sur la censure. On parle d'imprimerie, c'est important. Il y a des livres qui ont été faits sur ça et autres. Et j'ai parlé aussi de sécurité informatique. Qu'est-ce que vous... Non, monsieur Éric Pédeguet, qu'est-ce que vous pensez, vous, actuellement, des problématiques de censure par rapport à l'imprimerie, à la pensée ? Est-ce que ça concerne votre métier ou pas ? Vous êtes éditeur aussi,
non.
Je crois.
Oui, je suis éditeur. Non, pas vraiment.
Non, vous avez une liberté totale,
oui.
D'accord. L'environnement pour vous est l'identique à celui d'il y a 50 ans, vous n'avez pas de soucis par rapport à ça ?
Non.
Aucun, non. D'accord. Est-ce que vous avez été confronté à des problématiques de sécurité informatique, de propriété intellectuelle, ce genre de choses ?
Non, pas vraiment. Il suffit d'être dans les clous.
Vous êtes informatisé, vous ? Vous êtes informatisé, vous ?
Oui.
Vous n'avez jamais eu d'attaque, ce genre de choses ?
J'en suis à la veille, mais on travaille sous Mac, nous, les imprimeurs.
D'accord.
Et donc, les Macs sont quand même mieux protégés.
Tout à fait. Ouais. Oui, c'est vrai. D'accord. Oui, c'est un Mac, le design, le graphisme, ce genre de choses. Il y a une tradition.
Donc les Macs sont beaucoup plus protégés.
Tout à fait. Patrice, tu voulais dire un mot, toi, sur le fait qu'on fasse appel à beaucoup de technologies étrangères pour nos propriétés intellectuelles françaises, notre sécurité à nous ?
Non, on ne fait pas appel à des technologies étrangères ou quoi que ce soit. On écoute les lobbies, c'est ça le problème, c'est ça la problématique.
D'accord.
La problématique, c'est qu'à chaque mot de la société, si on fait appel aux lobbies, il est évident qu'on a des experts tout autour de soi qui n'ont jamais rien fait de leur vie, mais qui ont toujours quelque chose à penser et à transmettre. Mm-hmm. Mais là, on est dans le commerce, donc on nous explique que le bien, il se trouve à tel endroit, le mal se trouve à tel endroit. Sortez vos portefeuilles et suivez la bonne pensée. Ouais, mais là, on est dans le lobby.
Il y a aussi des prises de pouvoir et de la politique.
Bien sûr.
Comme dans tout groupe.
C'est le lobby du commerce sur la vie de la société.
En fait, les conspirationnistes, je ne savais même pas, mais...
Du tout, je suis observateur.
Mais nous sommes tous des
Je suis observateur.
Parce que tu penses par toi-même.
Bah oui,
j'essaie. Et voilà. Et pour penser par semaine, il faut s'instruire.
Et quand je sors une connerie, j'aime bien dire que c'est la mienne quand même.
Oui, mais ça, t'as bien raison. Pour qu'être intellectuel, ouais, quand tu es là, on ne te lâche plus, tout à fait. Bon. Et donc, et pour s'instruire, on ne dira jamais assez, il faut lire. Et non, ce n'est pas un sketch de Comique du Nord, là. Il faut lire. La lecture permet de formaliser la pensée, d'accroître la capacité de concentration, d'augmenter sa compréhension du monde, et donc de sortir de la tyrannie des émotions et des formulations courtes qui nous rendent si influençables et si trouponesques. Inventons des mots. Trouponesques. Voilà.
C'est beau comme mot. C'est un joli mot, ça.
Et puis, je vais bien dire ce qu'il veut dire, celui-là. On se demande même pourquoi il n'existait pas avant. Bon. Alors, le chiffre d'affaires des éditeurs est passé de 3 millions d'euros en 2021 à 2,9 millions en 2022, une baisse de 5,4%. Mais le nombre d'exemplaires vendus est quant à lui passé de 486 millions à 448 millions, soit une baisse de 7,7%. Alors, ces données doivent être relativisées parce que si on compare 2022-2019, le marché du livre est en croissance de 3,7% et 3,1% en volume. C'est-à-dire qu'en fait, on pense beaucoup que le marché de l'édition, de l'imprimerie, du papier est en chute libre, mais ce n'est pas forcément vrai. On va rebondir tout de suite avec M. Pédeguet sur le sujet, parce qu'il est imprimeur et éditeur. Ne bougez pas, c'est l'invité de la semaine.
L'invité de la semaine.
L'invité de la semaine, c'est un rescapé, c'est un survivant. Il a affronté toutes les tempêtes économiques, toutes les modifications sociétales. C'est Éric Pédeguet, chef d'entreprise d'un beau métier qui a disparu, enfin disparu en tout cas, tout le monde pense qu'il a disparu, mais pas si sûr que ça. Imprimeur, Éric Pédeguet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous. Alors j'ai tout de suite une première question, peut-être pour nos auditeurs, parce que surtout peut-être pour les plus jeunes. Imprimeur, c'est quoi comme métier? Parce que, à mon avis, ils n'en ont jamais rencontré.
Effectivement, il y a beaucoup de chances qu'ils n'en aient pas rencontré. C'est un métier...
Il y en a de moins en moins. Pardon.
C'est un métier... Alors, sans faire trop long, si on part à la base, l'imprimerie n'est pas inventée par Gutenberg, déjà. L'imprimerie est inventée ou par les Chinois ou par les Coréens. Ils se bataillent entre eux pour savoir qui a inventé l'imprimerie, 6e, 8e siècle. Gutenberg n'a fait qu'améliorer le procédé. Et donc l'imprimerie, à partir du moment où Gutenberg, la première impression, c'est 1455. Le fait que l'imprimerie, donc un moine copiste avant Gutenberg, un moine copiste faisait un ou deux livres dans sa vie. À partir du moment où Gutenberg arrive, Gutenberg arrive à faire 5-6 livres par semaine.
Ah oui.
Au tout début. Maintenant, aujourd'hui, on imprime des milliards de livres tous les jours. Tous les jours. Donc, l'invention de l'imprimerie amène le siècle des Lumières derrière. La diffusion du savoir. Donc, la Révolution française.
D'accord.
Voilà. Je trouve que l'imprimerie est un métier très important par rapport à ça. Parce que c'est un métier qui a, ben, voilà, qui a permis la diffusion du savoir.
Oui, c'est bien de le situer dans l'histoire. Vous avez raison.
Voilà.
Mais alors, l'imprimerie aujourd'hui avec...
L'imprimerie aujourd'hui... les gens ne se rendent pas compte à quel point ils ont de l'imprimerie partout autour d'eux. Ils en voient partout, mais ils n'y font pas attention.
Donnez-nous quelques exemples.
Alors, des exemples, je vois ici des affiches, des flyers. Je vois, vous pouvez avoir, comme je suis bergeracois, on fait du vin à Bergerac, des étiquettes de vin, c'est des imprimeurs.
Ah oui, les
des affiches à Brébus, c'est des imprimeurs.
Les emballages
tous les emballages des supermarchés sortent d'imprimerie.
Les prospectus.
Les prospectus, les dépliants, les brochures, les bulletins municipaux. L'imprimerie, on est partout. Mais l'imprimerie est un métier de niche. Vous avez des t-shirts, des gens qui vont imprimer que sur du textile.
Sur du tissu.
Ce sont des imprimeurs, des sérigraphes. Il y a 5-6 procédés, en gros, qui sont toujours en activité. Donc l'imprimerie, on est partout. Quand vous avez votre carte de crédit, elle est aussi passée dans les mains d'un imprimeur. Donc de l'imprimerie, il y en a partout.
Donc pourquoi, pourquoi dit-on que c'est un métier qui a disparu?
Alors, c'est un métier... en voie de disparition, effectivement, parce que le numérique, la dématérialisation mange des parts de marché, c'est-à-dire qu'on envoie beaucoup moins d'enveloppes, donc nous, imprimeurs, on en imprime beaucoup moins, on imprime beaucoup moins de têtes de lettres. L'État impose, par exemple, que les factures soient dématérialisées, donc plus personne n'envoie de factures, ou en tout cas à terme, ça va être comme ça.
Les timbres vont disparaître.
Oui, non,
même ça, si c'est à la limite, pas votre imprimerie.
Pourquoi pas, mais j'ai 58 ans, donc en gros 40 ans d'imprimerie. Il y a 40 ans, il y avait à peu près 30 000 imprimeries en France. Il en reste en gros 3 000.
Ah oui, voilà. Carrément.
Tous les petits ont disparu. C'est-à-dire tous ceux, mais même moi je suis à la limite, tous ceux qui n'ont pas pu investir dans les nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, il y avait peut-être 15-20 imprimeries sur Périgueux. Mais tout le monde avait une monocouleur. Et on avait plus de délais. Comment dire ? La technologie a fait que ceux qui n'ont pas pu acheter des machines très chères et utiliser les nouvelles technologies n'ont plus été compétitifs de suite. Voilà. C'est aussi simple que
donc
ça. Tous ceux qui n'ont pas pu investir,
ils sont morts rapidement.
Ils sont morts très rapidement.
Donc il y a eu à la fois une spécialisation et en fait une augmentation de volume qu'il faut arriver à suivre.
Oui, et puis c'est la course à l'armement, quelque part. Course à l'armement. Acheter une 4 couleurs, c'est en gros investir plus d'un million d'euros. Tout le monde ne peut pas investir un million d'euros.
4 couleurs, c'est MJN pour l'impression.
Ouais, et un million d'euros pour une petite entreprise.
Oui.
Pas un million d'euros pour une imprimerie.
Alors, je donne toujours le même exemple. Surtout, on va parler d'édition dans pas longtemps. Moi, en tant que petit imprimeur, j'achète à peu près tous les ans entre 80 à 100 tonnes de papier. J'ai un exemple, j'ai reçu une plaquette il n'y a pas si longtemps de ça, d'une imprimerie qui est en Vendée, une imprimerie française qui s'appelle Paulina, qui est une très grosse imprimerie et qui est spécialisée dans le livre. Donc j'en reviens à mes 80-100 tonnes de papier par an. Paulina commande, reçoit tous les jours 270 tonnes de papier.
Yaouh.
Tous les jours. 365 jours ou 364, peut-être pas le 1er mai.
Je suppose qu'ils font plus de livres que vous.
Voilà. D'accord. Donc là, vous voyez, ces gros imprimeurs-là, déjà, se sont mangés entre eux. Seuls les plus costauds ont résisté. Mais avant, ils avaient détruit tous les petits. Enfin, détruit. Économiquement détruit. Et l'autre chose, qui est... vous avez des pubs à la télé, on voit beaucoup de pubs Vistaprint. Il faut savoir que Vistaprint est le plus gros imprimeur mondial. Et donc, les sites en ligne, je ne vais pas donner... Enfin, il y en a plein, hein, online printers, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc, effectivement, ils ont des prix qui sont bien plus bas que les nôtres. Mais, alors, j'ai rien contre les Polonais, je n'ai rien contre les Bulgares, mais ils n'ont pas le même taux horaire que nous. Donc, c'est comme ça que ces grosses boîtes polonaises et bulgares, bon, ben voilà, quelque chose qui, en France, est à 200 euros, ben, vous avez la même chose en Pologne à 45 euros.
Oui, 45 euros.
Et le problème qu'il peut y avoir, c'est que si ça arrive, et que c'est mal fait, ou mal coupé, ou tout ce que vous voulez... Bon, mais voilà, vous avez perdu 45 euros.
Oui,
vous avez, vous aussi, ce problème de mondialisation. Vous êtes en concurrence avec des endroits où le travail humain n'est pas forcément rémunéré ou taxé de la même manière.
Ah oui, oui, bien sûr. C'est uniquement ça. Enfin, c'est uniquement ça. C'est en grande partie ça.
Donc, est-ce que vous aussi, vous critiquez peut-être la surréglementation et la surtaxation qu'il peut y avoir en France ?
Non.
Non.
Non, non,
ah.
non, non.
C'est... Pourtant,
non,
vous
non.
vous dites
non,
que vous êtes en concurrence
je...
avec des endroits qui en ont moins.
Oui, oui, mais c'est le... Comment dire ? Moi, je n'ai pas de problème à payer des impôts.
Non, mais
à partir du moment où ils sont bien utilisés.
C'est notre débat. C'est notre débat. Là, on critique une concurrence parce qu'elle a moins de règles et qu'elle paye moins d'impôts. Et donc, en même temps, ici, on ne critique pas le fait qu'il y ait plus de règles et plus d'impôts. Je mets les deux en parallèle, moi, c'est tout, uniquement
oui, mais
ça.
Le fait d'avoir des règles, moi, je suis imprimeur, par exemple.
D'accord.
Donc, je suis contrôlé là-dessus, j'ai aucun problème.
Bien
je
sûr.
Paye pour évacuer mes déchets
d'accord.
et ça ne me pose aucun problème.
Vous voudriez, en fait, que les autres aient les mêmes règles que vous.
Mais
vous ne voudriez pas que vous ayez
bien
moins
sûr.
De règles, vous voudriez que les autres aient plus
et
de règles.
Et que leurs salariés
d'accord.
soient bien payés.
Donc, vous voudrez que les impôts augmentent ailleurs et non pas qu'ils baissent ici.
Ben oui.
D'accord, ok. Non, mais comme ça, c'est clair. D'accord, ok.
Oui, oui, non. Nos impôts servent à payer les écoles, les ronds-points qui sont devant les écoles.
Oui, c'est pour ceux qui les gèrent aussi.
Voilà, et servent à payer correctement les infirmières de l'hôpital, les aides-soignantes. Voilà. Nos impôts servent à ça.
Ils devraient.
Ils servent à ça, même si c'est. Surtout en ce moment, plutôt mal utilisé.
Ouais, il devrait.
Dans l'absolu, devrait. C'est ça.
Dans l'absolu, c'est
dans
ça.
L'absolu,
je suis d'accord.
C'est ça.
Mais dans la réalité, bon, il devrait. D'accord.
Pat. Je pensais à une chose en vous écoutant. Bon, c'est sûr que la mondialisation, bien évidemment, a été un acteur, j'ai envie de dire, important pour, j'ai envie de dire, la chute du métier d'imprimeur. Le fait de se retrouver avec des concurrences énormes et avec des prix, une différence de prix colossale que, pour laquelle vous ne pouvez pas vous battre. Mais il y a un autre volet aussi. On a l'impression que l'imprimeur, c'est un peu l'ennemi juré de nos chers écologistes, là, parce que, en fin de compte, il n'y a pas une époque où on vous disait l'imprimeur, c'est celui qui salit le papier, c'est ça? Il n'y a pas un moment où on disait ça?
Les mauvais imprimeurs, on dit que c'est les salisseurs de papier.
Voilà.
Les mauvais imprimeurs. Après, pour ce qui est de l'imprimerie, moi, comme 99% de mes confrères, on utilise ou du papier recyclé ou du papier issu du développement durable. Donc, du papier issu du développement durable, on arrache un arbre, on en plante un. Utilise le moins de chimie possible. Si on se met en face du numérique, nous, on ne fait pas fondre les glaciers au Groenland.
Oui,
vous vouliez en parler de ça, c'est que vous êtes plus écologiste en fait que l'imprimerie numérique, vous disiez.
Que le numérique en général.
Oui, c'est là que je voulais aborder.
Voilà,
les data. Oh là là, je suis désolé.
Non, tu as pris mon truc. Là. Parce que c'était. On se bat contre des idées reçues parce qu'on se dit oui, mais l'imprimeur, qu'est-ce qu'il fait? L'imprimeur, alors déjà, il imprime ce qu'on lui donne, hein, c'est pas lui qui. Donc il reçoit des clients et il fabrique le travail qui est demandé par sa cliente. Et puis après, on se dit, mais attends, en fin de compte, on est des gros pollueurs de la nature. On demande à imprimer des tracts, à imprimer des trucs qui servent à rien, qui finissent à la poubelle. Donc, en fin de compte, il fait partie d'une chaîne polluante, l'imprimeur.
Oui, non, j'ai tellement de plaisir sur mes livres que je garde depuis mon enfance avec moi, parce que c'est des trésors. Je touche un livre, je me souviens du moment où je l'ai acheté.
Et si tu arrives à me laisser la parole.
Et dans le numérique, ça n'existe pas. Hein.
Mais oui, et puis Eric l'a très bien dit, c'est la transmission du savoir, c'est la transmission de l'information. Et si vous pensez, cher auditeur, qu'en envoyant des mails et en surfant sur Facebook et tous les... ça, c'est aussi énormément polluant. C'est peut-être même encore plus polluant que de prendre un arbre et d'en faire du papier et de pouvoir coucher quelques lettres dessus. Et c'est quelque chose que je voulais aborder, parce que qui est le plus polluant, j'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, de penser que l'imprimeur, c'est lui le polluant, parce qu'on salit le papier, c'est une grave erreur. Éric Pédeguet, qu'est-ce qu'on peut dire à aujourd'hui dans votre métier à vous? Comment on le qualifie? Parce que vous avez parlé tout à l'heure d'imprimerie industrielle qui imprimait sur des supports publicitaires, sur du packaging. Bon, vous, c'est pas votre métier. Votre métier, c'est d'imprimer des besoins de la cité, j'ai envie de dire.
Oui, du bulletin municipal, du dépliant, de la brochure, de la carte de visite, des têtes de lettres, des carnets triplicata, quadriplicata pour les livraisons, ça s'appelle... c'est une imprimerie de ville, on dit.
Ah,
on parle d'imprimerie
bien,
de ville. C'est les travaux de ville.
Ah ouais, voilà. C'est une belle image, ça. Comment on peut la voir, cette imprimerie de ville, demain, après-demain? Parce que, un, vous n'êtes pas à la retraite, hein, donc on peut vous poser la question. Mais non, vous n'y êtes pas encore.
Si.
Vous êtes l'avant de l'imprimerie, donc celui qui va la reprendre, qu'est-ce qu'on peut lui dire?
Qu'il y a encore au moins une vingtaine d'années devant nous.
D'accord.
C'est-à-dire que les nouvelles générations naissent avec un ordinateur dans les mains qui s'appelle un téléphone. Donc cela, effectivement... dans 15, 20 ans, 30 ans, quand ils seront aux affaires, eux, le papier, ça leur parlera moins. Aujourd'hui, on a encore besoin du papier. Les gens dans toutes les mairies, moi je travaille avec pas mal de mairies, ils impriment leur bulletin municipal. Les gens attendent leur bulletin municipal, attendent leur information mensuelle. Je vais bientôt rentrer dans la catégorie des personnes âgées, donc moi je suis je suis imprimeur, donc attaché au papier, mais l'imprimerie est encore en avenir. Voilà, parce que tout le monde n'est pas formé, ou tout le monde... On n'est pas obligé d'acheter un smartphone.
Non, et puis on n'est pas obligé d'en avoir. On ne pourra pas mettre des panneaux électroniques partout, sur tous les endroits d'affichage. Ce ne sera pas possible.
Non, parce que on peut commencer à construire d'autres centrales nucléaires. Et là, on en revient au fait que le numérique, les data centers, etc., c'est pas la panacée. C'est pas la panacée. Il y a un site que j'encourage un peu tout le monde à aller voir qui s'appelle Two Sides. C'est de l'anglais, TWO Sides. Allez voir ce site. Ce site-là fait la promotion du papier en opposition
au digital.
Au digital, voilà. Et il y a des choses intéressantes et des idées reçues battues en brèche, quoi.
Bon, voilà. Donc mon petit projet sur l'IA et les cryptos en ce moment est très polluant. Bon, je voulais vous demander, vous êtes quelqu'un d'engagé sur la place de Périgueux, tout le monde le sait. Vous êtes chef d'entreprise, donc le but d'une société, c'est de faire du bénéfice quelque part, de protéger les salariés. Forcément, avec 6 employés, une pression au fait du management. Quelle est la spécificité d'Éric Pédeguet? Comment est-ce qu'on est entrepreneur? Comment est-ce qu'on est manager lorsqu'on est Éric Pédeguet? Comment fait-on?
On est humain.
Oui.
L'humain d'abord.
D'accord.
On essaye d'écouter, de regarder et d'entendre ses salariés.
Et ça fait longtemps qu'ils sont avec vous?
Pardon?
Ça fait longtemps qu'ils sont avec vous?
Non, j'ai eu un peu de renouvellement. Là. J'ai eu quelques départs en retraite et quelques départs, mais certains sont là depuis une douzaine d'années. Ouais.
Et avant le départ en retraite, c'était longtemps avec vous?
Oui, il y en a qui ont fait toute leur carrière. Moi, j'ai repris cette imprimerie il y a 15 ans, en janvier 2007.
D'accord.
Certains y ont fait toute leur carrière. Ouais.
Donc, vous avez assez peu de turnover et vous avez une constitution de groupe, en fait, c'est ça?
Ah,
donc,
oui,
les gens avec qui vous travaillez sont des collaborateurs, ce sont pas
des
ressources.
Quelque part, et je ne pense pas que ce soit des paroles en l'air, mais mes salariés sont ma famille.
D'accord. D'accord.
Je les côtoie plus que ma famille.
Non, mais il y a un intérêt parce que c'est vos ressources. Ce ne sont pas des ressources, c'est une équipe. C'est
un salarié qui a besoin d'une heure, d'une journée pour se soigner, pour aller voir de la famille, aucun problème. On travaille en confiance, donc ben voilà, par une journée, tu me dois 7 heures, tu me rembourseras tu feras les 7 heures ben, dans la semaine prochaine ou dans le mois qui vient.
Ah.
Et voilà,
annualisation du temps de travail?
Non, mais quand il y a des heures sup à faire, moi, toutes les heures sup sont payées aux règles de l'imprimerie, c'est-à-dire 33, 66, 100%, ça va très vite. Dans l'imprimerie, on est au 13e mois.
D'accord.
Tous les salariés sont 35 heures, 13 mois.
Mm-hmm.
Voilà, donc ça, moi, je le respecte au centime près.
Est-ce que c'est une coopérative, les bénéfices de la société, où est-ce qu'ils vont?
Non, je les remets dedans.
Vous les remettez dedans?
Tout le temps.
Vous ne vous constituez pas un patrimoine, vous réinjectez, vous avez votre salaire et vous réinjectez l'argent que vous gagnez.
Ouais.
D'accord, donc vous investissez en fait.
Ouais. Je n'ai pas j'ai pas eu d'enfant, je suis passé à côté, ma maison est payée, donc moi personnellement, le plus riche du cimetière, je m'en manque.
Il peut y avoir un intérêt à avoir une voiture neuve et une maison à soi. Hein,
non. Non.
Par contre, pour les jeunes qui nous écoutent, comment on peut devenir imprimeur? C'est quoi? C'est un métier? C'est des diplômes obligatoires? Qu'est-ce qui est recherché pour... imaginons que vous recherchiez un imprimeur suite à un départ à la retraite. Quels sont les profils que vous allez retenir?
Alors, la première chose, les opérateurs de machines, on appelle ça un conducteur offset, il y avait aussi un imprimeur typo. Le fait que l'on soit passé de 30 000 imprimeries à 3 000, il n'y a plus de personnel. Il n'y a pratiquement plus de gens formés. Et les nouvelles machines sont tellement, entre guillemets, faciles d'utilisation qu'on n'a pas vraiment besoin de vrais professionnels comme on en avait besoin il y a 10-20 ans encore. Ensuite, là où l'État, à mon avis, se trompe grandement, c'est l'État forme trop d'infographistes. C'est-à-dire que tous les jeunes qui ont un ordinateur chez eux, tout le monde a un ordinateur chez lui, et puis certains jeunes aiment ça ou ça leur plaît de faire de la création. Et donc l'État forme, sauf qu'il n'y a pas de place derrière.
D'accord.
Voilà. Alors beaucoup se mettent à leur compte, on voit des agences de
prom
qui se montent.
De plus en plus.
Ils durent un an, deux ans, terminé. Voilà. Là, c'est un des problèmes. Si je prends régulièrement des stagiaires, peut-être 1 sur 5 fera son métier là-dedans, pas plus, et uniquement les meilleurs. Donc moi, dès que j'ai un stagiaire, je lui dis mais va jusqu'au bout, va jusqu'au maximum que tu peux aller. Quelque part, fais l'école Boulle, fais l'école Estienne, voilà. Ceux-là, les meilleurs s'en sortiront. Les autres. Il reste, comme il y a très peu d'imprimeurs, donc très peu de place, quelques agences de com, on en a sur Périgueux, hein. Voilà, là il y a quelques places, mais autrement, il n'y en a pas d'autres.
Vous recrutez donc, actuellement?
Pardon?
Vous recrutez actuellement?
Non, je viens de recruter quelqu'un.
D'accord. C'était facile de recruter?
Oui.
D'accord. Vous n'avez pas de problème de recrutement, vous?
Non.
D'accord.
Non. Alors, on va recruter des infographistes, mais qui n'ont jamais travaillé en imprimerie. Donc, il va falloir leur amener
une formation. C'est pas du web, c'est du print, bien
ouais,
sûr.
Voilà. Ah, ouais, il y a des contraintes qui ne sont pas les mêmes que le web. De toute façon, on est un CMJN, enfin voilà, il y a des contraintes.
Est-ce que vous n'allez pas tendre dans les années qui viennent, et peut-être déjà aujourd'hui, vers un métier de qualité, de top qualité, de qualité d'exception, parce que vous êtes dans une niche là, mm-hmm. on a bien compris. Parce que bon, le travail, j'ai envie de dire, le travail qui ne demande pas de qualité. Vous avez parlé des gros faiseurs européens, internationaux qui impriment à des coûts. Imbattable. Est-ce qu'on ne va pas tendre vers une imprimerie de luxe, une imprimerie de haute qualité pour que vous continuiez à exister ?
Certains, oui. Il y a un très bon exemple qui est sur Bordeaux, qui s'appelle Bulk, B-U-L-K, qui est une petite imprimerie qui est là-dedans, clairement. Mais parce qu'à Bordeaux, il y a le marché. En Dordogne, je ne suis pas persuadé.
Oui.
Voilà. Donc sur Bordeaux, oui, il y a des gens qui sont prêts à payer 200 euros les 100 cartes de visite. Ce n'est pas un problème. En Dordogne, vous ne les trouverez pas. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Pour aborder le sujet qu'on va forcément effleurer, hein, vu le temps, vous êtes éditeur, vous aussi. Pourtant, vous faites majoritairement du prospectus et du tract, ce genre de choses, des cartes, des trucs municipaux. Éditeur dit livre, je suppose. Vous éditez aussi du livre. L'activité d'édition, comment elle se porte actuellement ?
Alors, je dis toujours aussi un peu la même chose. Hein. Quand j'ai envie de perdre de l'argent, je sors un livre. Voilà.
D'accord.
Éditer un livre et vouloir faire de l'argent, bon, c'est vous jeter une pièce en l'air et vous espérez qu'elle retombe sur la tranche. Donc, après, on peut faire de l'argent avec... Mais les petits éditeurs, c'est compliqué.
Il faut distribuer, après.
Après, voilà, moi, j'ai un distributeur, donc...
Donc si je viens voir demain pour faire un livre, on le met où
Je vais vous faire très rapidement ce qu'est l'économie du livre. Mm-hmm. Ce qu'est l'économie du livre. Un livre qui vaut 20 euros que vous allez acheter en librairie, en général, 20 euros égale 2 euros pour l'auteur. La règle en France, c'est 8 à 12% de droits d'auteur. Donc d'accord. On va dire 10, chez moi c'est 10, 2 euros pour l'auteur. Le libraire a 35% pour lui.
Mm-hmm. Le distributeur donc.
Le distributeur a 20%. Okay. Donc un livre qui est 20 euros... Moi, on va me l'acheter, on va dire, 9,50. Sur ces 9,50, j'ai 2 euros pour l'auteur. Mmh. Il me reste 7,50 pour expédier les livres et pour les fabriquer. Ça fait très peu.
Vous êtes digitalisé, comme Print24, ce genre de choses, un site web où on commande, on configure, la commande arrive directement,
Non.
Donnez le nom du petit site.
C'est la Lose, j'ai un site de la Lose, mais après
L-A-U-Z-E,
comme les toitures.
Ok.
Du Quercy.
Bon, très bien.
Et pour ce qui est du livre, enfin...
Oui.
Par exemple, le livre jeunesse, le livre pour enfants, 95% des livres sont... 95% des livres jeunesse sont fabriqués en Chine, ou en Asie du Sud-Est, en gros. Donc, les Chinois, ils ont une très grande ville, un port qui s'appelle Shenzhen, je crois, qui est dans le sud-ouest de la Chine, où il y a tous les imprimeurs. Les imprimeurs impriment les livres.
Ils sont sur le bateau.
Ils sont sur le bateau et ils façonnent les livres pendant le voyage.
Bon. L'imprimerie, l'éditeur, et en plus, ils en sont à faire sur le bateau. Bah, écoutez, monsieur, vous n'imprimez pas d'argent, vous ? Parce que des temps, on imprime beaucoup, mais vous n'imprimez pas d'argent.
Non, c'est trop compliqué.
C'est trop dangereux. Bon, Pat, à la semaine prochaine.
Pourquoi pas une monnaie locale ?
Eh bien, écoutez, on va y penser. À la semaine prochaine, chocolat à la faille. À bientôt, soyez sages. Bye-bye.
Merci à vous tous.
RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie, elle existe. Des trésors satinés, dorés à souhait.
RLP
Radio Libre en Périgord.